Chers amis, on va commencer Bezrat Hashem le chapitre 42. Alors, pour être honnête avec vous, on n'a pas terminé le chapitre 41. Mais de toutes les façons, le chapitre 42 vient à la suite du chapitre 41. C'est vraiment une suite directe. Et j'ai pas envie de re-rentrer dans tout le sujet parce que on a fait une série de 4-5 cours juste pour Siman dans le sujet. Donc, là, avec la Baruch Hashem, les vacances sont passées. Donc, on va avancer directement au chapitre 42. Et les quelques notions qu'on n'a pas étudiées directement dans le chapitre 41, je m'arrangerai pour les insérer, si Dieu veut, dans le cours d'aujourd'hui et dans les cours suivants. Voilà, comme ça, on s'embrouille pas. Comme ça, on commence quelque chose de nouveau. La rentrée, d'accord? On a un nouveau cartable, on a des nouvelles affaires, on a des nouveaux livres, on a tout nouveau. Ok. Dans le chapitre 41, nous avons expliqué quelque chose de très important. Beaucoup de gens pensent par erreur que dans la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, le plus important c'est l'amour. Plus important c'est d'aimer Dieu. Et que la crainte, c'est un sentiment qu'il faut repousser le plus vite possible. Pour être plus clair, il y a beaucoup de gens qui pensent que la crainte de Dieu, c'est que pour les enfants. Quand un enfant, il est petit, ok, alors tu lui dis, c'est Shabbat, il ne faut pas transporter, il ne faut pas jouer, il ne faut pas faire ci, enfin, pas jouer à ça, un jeu, etc., interdit. Il va dire, papa, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je vais dire, parce que c'est assaut. Donc c'est la crainte de Dieu. Mais nous, on pense par erreur, Zach, on pense par erreur que la crainte de Dieu, c'est que pour les bébés et que pour les débutants, mais que dès qu'on commence à grandir un petit peu, il faut bifurquer dès que possible à l'amour. Réponse de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken nous a expliqué longuement que c'est faux. Tu peux servir, David. L'Admor HaZaken nous a expliqué que c'est faux, que pas du tout. Que dans la relation que nous avons avec Hachem, comme dans toute relation d'ailleurs, une relation ne peut jamais être basée que sur l'amour. Il faut toujours une composante qui s'appelle la crainte. Toujours. Et s'il n'y a pas de crainte, finalement, il n'y aura pas d'amour non plus. Et c'est la raison pour laquelle, dans la relation que nous avons avec Dieu, il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Vous avez déjà posé la question, comment ça se fait qu'il y a deux catégories de mitzvot? Pourquoi il y a des positives et des négatives?
Parce que t'avais dit la fois dernière que tout marchait,
ah oui, ça veut dire.
En binôme positif.
Vous avez des relations, vous avez des religions dans lesquelles on vous dit fais ci, fais ça. Bon, on sait que celui qui ne le fait pas, il l'a pas fait. Vous avez des religions dans lesquelles on dit c'est interdit de manger ci, interdit de faire ci, interdit de manger ci, interdit de faire ça. Et que les interdits. Ouais. D'accord? Bon, je ne citerai pas les religions, mais certainement vous retrouvez les religions qui correspondent. Il y a des religions dans lesquelles c'est que les interdits. Mange pas de viande, mange pas de, bois pas de vin, bois pas de tic, tatatata, que des ne pas. Et nous, dans notre religion, on a les deux. On a des mitzvot positives. Ça veut dire, on te dit, fais ci, fais ça. Et on a des mitzvot négatives. Pourquoi les deux? Et des fois, le pire, je ne sais pas si vous écoutez la mitzvot du ramam qu'on fait le matin, mais des fois, on a la même mitzvah en positif et en négatif. Par exemple, tiens, on va prendre une mitzvah la semaine dernière. Tu as une mitzvah qui te dit tu dois avoir des justes qui sont équitables.
Sans fromage.
Et une deuxième mitzvah qui te dit tu n'as pas le droit d'avoir des justes qui ne sont pas équitables. C'est comme si je dis le verre il doit être plein et le verre ne doit pas être vide. Tu vas me dire, mais Mendy, c'est une répétition, c'est normal. Pas du tout. Parce que les mitzvot positives représentent l'amour qu'on a vers Akadosh Baruch Hu, et les mitzvot négatives représentent la crainte qu'on a vers Akadosh Baruch Hu. Et il faut constamment les deux. Voilà. Bon, on va marquer une petite pause. Donc je disais que nous avons expliqué dans le chapitre 41, je termine rapidement, que contrairement à ce qu'on pense, que la composante principale du service de Dieu c'est l'amour, et que la crainte de Dieu c'est que pour les débutants, pour ceux qui démarrent, pour les enfants, etc. Mais qu'après, on doit atteindre l'amour de Dieu. On a expliqué que c'est une erreur. Que dans une relation saine avec Akadosh Baruch Hu, il y a une composante de crainte et une composante d'amour. D'ailleurs, on s'approche de Rosh Hashanah. C'est intéressant parce que Rosh Hashanah aussi, il y a les deux. Est-ce qu'on peut dire que Rosh Hashanah n'est que la crainte? Non, il y a l'amour aussi. On aime Dieu, on a envie d'être là, de revenir, etc. Il y a une composante crainte qui est indéniable. Et c'est pas que pour des enfants, c'est pour tout le monde. Comment ça se fait? Parce que le Tania a expliqué que c'est comme ça que Dieu a décidé qu'on doit avoir la relation avec lui. Et c'est comme ça d'ailleurs que toute relation fonctionne. Il y a une partie crainte, une partie amour. Toujours, les deux. Et c'est pour ça que nous avons des mitzvot négatives et des mitzvot positives. Maintenant, il y a un point important qu'on n'a pas trop développé la dernière fois, mais que je vais juger un petit peu maintenant, qui est, qu'est-ce qu'on appelle la crainte de Dieu? Vous avez la crainte de Dieu et des tzadikim, qui est une crainte de Dieu, ce qu'on appelle la crainte suprême. Il y a la crainte terrestre et la crainte suprême. La crainte suprême, je vais commencer par celle qui est inaccessible, enfin, en tout cas très difficilement accessible, ce qu'on appelle la yir'aïla, la crainte suprême. C'est le fait d'avoir la crainte de Dieu parce qu'on arrive à comprendre et s'imaginer que Dieu est partout et le ressentir. C'est-à-dire, c'est une personne qui arrive à un niveau qui voit Dieu partout. Voilà, il voit Dieu partout. Et donc lui, c'est pas qu'il a la crainte parce que il se dit peut-être qu'il y aura une année ou il y aura pas une année, ou je sais pas ce qu'il y aura, etc.
Parce qu'il le voit.
Il le voit. Il le voit de ses yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle ira, ilaha, la crainte suprême. Mais la Gemara Zakaïn explique, et ça, effectivement, la crainte suprême, c'est pas au niveau de tous. Il y a des gens qui arrivent et des gens qui arrivent pas. C'est-à-dire que même si je me dis, je vais faire des efforts pour arriver à ressentir et voir Dieu partout, c'est pas dit que je réussirai. Peut-être oui, peut-être non. Par contre, il y a une crainte de Dieu à laquelle on peut tous atteindre. C'est quoi? C'est la crainte terrestre. C'est quoi la crainte terrestre? C'est faire un calcul très simple. Se réfléchir comment Dieu m'a créé et comment Akadosh Baruch Hu est partout. Même si je ne le vois pas, mais j'arrive à comprendre avec ma tête que Dieu est partout et que Dieu m'observe. Et que Dieu est conscient de chaque chose que je fais. Que je ne peux pas lui échapper. J'ai lu récemment un manuscrit du Rabbi, dans lequel le Rabbi disait, il répondait apparemment à quelqu'un qui, je sais pas ce qu'il fait cette personne-là, mais il a eu la gentillesse de publier ce que le Rabbi lui a répondu. Le Rabbi lui a dit, de Dieu on peut pas se sauver. Je sais pas ce qu'il a fait pour que le Rabbi lui écrive ça. Il lui a dit un yiddish comme ça, il lui a dit, de Dieu on peut pas se sauver.
C'est un peu vrai.
Bah oui, ça veut dire voilà. C'est fais ton malin. Fais ton malin. De Dieu, on peut pas se sauver. Alors ça, c'est pas une crainte suprême. C'est pas la crainte du tzadik qui est là, tu comprends, qui est dans les douleurs, la motte, il a vu le monde de Hatzilut, le monde de Bria, il a vu le monde d'Akadosh. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une crainte terrestre. Crainte terrestre de dire, je réalise que Dieu est partout et que je peux pas me sauver de lui. Et ça même, ça me calme tout de suite pour faire une avira. Et ça, il n'y a pas de secret pour ça. Il suffit de réfléchir. Réfléchir. Essayer de se poser la question constamment. Comment je retrouve Dieu dans ma vie de tous les jours? Ok. Maintenant, on va passer à la page 253. Et on va commencer, Bezrat Hashem, le chapitre 42. Iné bima shene marlel beine iratata. Avec ce que nous avons expliqué plus haut, dans le chapitre 41, concernant la crainte inférieure. C'est quoi la crainte inférieure? La crainte inférieure, c'est la crainte de base. Le fait de me rappeler que Dieu est là, sans rentrer dans les détails et de me poser la question, est-ce que Dieu, comment il est, où il est, une crainte basique, ça chacun peut avoir. Avec ça, Yuvan et moi bien comprendre, écoutez bien l'histoire de la Gemara. La Gemara commente un verset de la paracha Va'etranan. Dans la paracha Va'etranan, il est écrit la chose suivante, ou Ekev, pardon. Il dit, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mima. Vous savez que le Chumash, la parashat Ekev, est dans le Chumash Dvarim. Le Chumash Dvarim, c'est un discours de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Écoutez ce que dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'adresse à la communauté d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Ve'ata Israël. Et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Mima. Qu'est-ce que Dieu te demande? Kim le'ira et Hashem Elokecha. Seulement de craindre ton Dieu. Ça, le Moshe Rabbeinu, il la joue commerciale, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu te demande déjà? Il te demande seulement de le craindre. Est-ce que c'est facile de craindre Dieu? Non. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? C'est un manque de respect envers nous de nous parler comme ça. C'est une question que pose la Gemara. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Imaginez, voilà, Moshe Rabbeinu, il débarque, il dit, crainte Dieu, mais c'est rien, c'est du gâteau. Et la Gemara, elle pose la question. La Gemara dit Atu ira miltazutrati. C'est la Gemara dans le traité Brachot, page 42. Elle pose la question. Elle dit page 33. Elle dit, parce que 42, on reprend l'histoire. Elle dit, mais est-ce que la crainte est une petite chose? Est-ce que craindre Dieu c'est une petite chose? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il est là en train de dire qu'est-ce que Dieu te demande? Seulement de le craindre. Ma'ashem elokecha, Monsieur, il dit, mais quoi ma'ashem elokecha? Ma'ashem elokecha shulek var meima. Qu'est-ce que Dieu te demande? Seulement de le craindre, c'est rien. Gemara dit, mais quoi, mais craindre Dieu, c'est facile? C'est le plus dur. C'est la mitzvah la plus difficile sur terre. Aimer Dieu, c'est relativement facile, tu peux l'aimer, parce que quand Dieu, tu vois comment Dieu il te fait du bien, tu peux l'aimer. Mais craindre Dieu, comme tu crains un malheur qui arrive, comme tu crains quelqu'un, comme tu crains, c'est très difficile. Rappelez-vous l'histoire que vous avez racontée avant les vacances, de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui est à l'âge de 120 ans, qui est en train de quitter ce monde, et ses élèves, ses illustres élèves, lui disent « Rabbi, bénis-nous ». Et qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit « Je vous souhaite que vous craigniez Dieu comme vous craigniez les hommes ». Et ils leur ont dit quoi, c'est ça, Rabbi, ta bracha ultime? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, bien sûr. Il leur a dit, si vous craignez Dieu, quand vous craignez un homme, jamais vous aurez fait une faute. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? J'espère que personne ne m'a vu. Tu comprends? Alors, il dit comme ça. Donc, c'est le plus dur. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est facile. Enfin, rien n'est facile, mais c'est relativement facile. Mettre les tefillines, c'est facile. Faire son Shabbat, tu peux t'habituer. Mais craindre Dieu, c'est un combat de tous les jours. Comment mon cher Rabbeinu, il peut venir et nous dire, mais qu'est-ce que tu te demandes? Seulement de le craindre, c'est rien. Est-ce que c'est une petite chose? Question que pose la Gemara dans les Brachot. Qu'est-ce que répond la Gemara? Elle répond une réponse encore plus bizarre, a priori. Elle dit, in, oui, le gabé Moshe, milta zutrati. Par rapport à Moshe, la crainte de Dieu est une petite chose. C'est quoi cette réponse?
Ouais, Moshe, c'était...
Ouais, mais évidemment, mais Moshe Rabbeinu, il nous parle à nous.
Les proportions.
Donc, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à moi, tu vois, à chacun de nous. Il dit, mais qu'est-ce que je te demande? Ah, c'est moi de le craindre. Gemara pose la question, il dit, mais quoi, mais est-ce que craindre Dieu, c'est facile? Qu'est-ce que répond la Gemara? Elle dit, oui, pour Moshe, c'est facile. On s'en doute que pour Moshe, c'est facile, mais c'est pas Moshe qui nous intéresse, c'est nous. Bien sûr, pour Moshe, c'est facile. Alors, c'est quoi cette réponse? Pour Moshe, c'est pas facile. Si vous prenez la Gemara Artrol ou d'autres mots, etc., avec les commentateurs, vous allez voir là-bas, dans les références, vous pouvez la voir là-bas, il vous dit, regardez Tania, chapitre 42.
Ah ouais?
Ouais, c'est écrit, dans les références. Parce que c'est une Gemara que tout le monde se casse la tête sur ça. Personne ne comprend ce que ça veut dire. C'est quoi cette question, c'est quoi cette réponse? Ça n'a ni tête ni queue. La réponse n'est pas une réponse. Une réponse, tu dis, pour Moshe, c'est une petite chose. D'accord? Alors, Morazakhen pose la question. Et vous allez voir comment la réponse magnifique qu'il va nous donner. Un très concret douche on va avoir aujourd'hui. Là, je peux vous dire, aujourd'hui, vous allez rentrer chez vous à la maison. Vous allez dire quelque chose à votre femme, elle va vous regarder d'un autre œil. Mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. Hein? Alors, on y va. Regardez.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Délire aura.
Déjà qu'il nous regarde.
D'accord. Délire aura qu'a priori, et nous mouvons la tirout. A priori, la réponse de la Gemara n'est pas compréhensible. Pourquoi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Moshe Rabbeinu ne dit pas, maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moshe Rabbeinu dit, maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu attend de
vous?
De toi, de vous. Donc, ne me sors pas ce qui est facile pour toi. Sors ce qui est facile pour nous. D'Hachoel Meimarktiv. Moshe s'adresse à chaque juif. Et étant donné que Moshe s'adresse à chaque juif, comment il peut venir nous dire que c'est facile? Qu'est-ce que va répondre l'Admorazaka? Une réponse extraordinaire, un ridouche. Il va dire qu'en vérité, chacun de nous, au fond de lui, il a un niveau dans son âme qui s'appelle Moïse. Ce soir, vous allez rentrer chez vous à la maison et vous allez dire à votre femme, je suis Moïse. C'est le grand Moïse, là.
Ça, c'est bien une histoire.
Vous vous rappelez, on avait fait un cours la dernière fois, je suis le Messie. Vous vous rappelez, on avait fait le cours. Messie, c'était Messie, on avait dit. Il y a un niveau Messie.
Et aussi Dieu.
Alors, attendez. Là, c'est très puissant, là. On te dit que chacun, au fond de nous, nous avons, et on va développer, attention, faut pas Stam lancer une phrase comme ça. On a en nous un petit Moïse, qui est là, chacun de nous.
Et qui nous emmerde parfois.
Et lorsque la Gemara répond, elle te dit oui, pour Moïse c'est facile, elle parle pas de Moïse qui a vécu, ça fait 3300 ans. Elle parle du petit Moïse qui est en toi.
Et qui t'emmerde.
Et que Moshe Rabbeinu, le grand Moïse qui a vécu à 3300 ans, il te dit, toi tu crois que craindre Dieu c'est compliqué? Mais pour le Moïse qui est en toi, c'est facile. Là, ça change tout, là. Alors là, maintenant, il faut découvrir c'est qui ce Moïse qui est en nous, comment on fait appel à lui, et je veux dire, comment il entre en fonction. Il est intéressant, ce Moïse. Imaginez qu'on te dit que j'ai en moi un petit Moïse. Et comment ça fonctionne? Et là, on comprend beaucoup mieux la réponse d'Admara. La Gemara, ça veut dire qu'on amène un verset. Dans ce verset, on te dit, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à chacun. Et il lui dit, maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande seulement de le craindre? Pose la question, la Gemara, elle dit, mais est-ce que craindre Dieu c'est facile? Qu'est-ce que répond la Gemara? Oui, pour Moshe c'est facile. Ça veut dire quoi pour Moshe? Pas pour Moïse, celui qui a vécu 3300 ans. Pour le niveau de Moshe qui est en toi, c'est facile. Bon, là, il faut qu'on développe. C'est quoi ce petit Moshe qui est en toi? D'abord, d'où ça sort, ça? On va développer. Et là, Aïnien ou. Seulement, le principe est. Qui colle Nefesh, va Nefesh. Donc là, j'ai tourné la page. Au milieu de la page 254. Qui colle Nefesh, va Nefesh, me bête Israël. Chaque âme d'Israël. Yeshba, mi prinat, Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Chaque personne du peuple juif a en lui un niveau qui est issu du niveau de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Du niveau de Moshe Rabbeinu qu'on a connu à 3300 ans. Pourquoi? Ki ou Mishiv Aroim. Car Moshe Rabbeinu fait partie des sept bergers. Amam Shichim Chayut Ve'elokut Liklalut Neshamot Israël. Qui amène de l'énergie et de la vitalité à toutes les âmes d'Israël. Chez Lachem Nikraim Beshem Roim. Que c'est pour ça qu'ils sont appelés Beshem Roim par le nom de berger. Bon, là, il faut qu'on s'arrête un petit peu pour expliquer ce que ça veut dire. Vous savez que dans toute l'histoire du peuple juif, nous avons eu que sept bergers. Sept. Bon, je vais expliquer. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord. Comment on les appelle? On les appelle les bergers. Maintenant, il va venir après un grand sadique. Par exemple, le roi Salomon. C'est un grand sadique. Peut-être que dans un certain domaine, il a même dépassé son père. Mais il ne fait pas partie des sept bergers. Pourquoi? Attends, on va expliquer. Pourquoi? Non, quand je dis berger, c'est pas dans le sens berger qui va les paître. Berger, c'est-à-dire les bergers d'Israël. C'est nous les moutons. Pourquoi? Comment ça fonctionne? En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre le secret de la menorah. Combien de branches il y a dans la menorah? Sept branches. Pas une de plus. Et pas une de moins. D'accord? Pourquoi? En fait, le Zohar explique que chacune de ces branches correspond à une façon différente de servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y en a que sept. Il n'y a que sept voies. Que sept. Ces sept pistes correspondent aux sept midot, aux sept traits de caractère qu'on a développés dans le chapitre 3 du Tanya, ça fait un bout de temps. À savoir, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Sept. Maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Ça veut dire que dans chaque courant du peuple juif, parce que nous avons plusieurs courants, j'ai pas envie de dire faction, mais plusieurs courants, on va plus s'identifier par rapport à une des branches de la menorah plus qu'une autre. Par exemple, il y a des courants dans le judaïsme dans lesquels on va te dire le plus important pour nous, c'est le chesed. Maintenant, bien sûr que tout le monde fait toutes les mitzvot, ça c'est évident, il n'y a pas de question dessus. Mais chaque courant du peuple juif a un point fort. Et il n'y en a pas 10 000, il y en a 7. 7 principaux.
Ah, il y a les combinaisons.
Et après, exactement. Et après, chacun, il va rentrer.
Non, la période du Homer.
Mais même si tu as les combinaisons, il y a toujours une caractéristique dominante. Certains, par exemple, tu as des courants dans lesquels la caractéristique dominante, c'est la rigueur. Il dit pour nous, bon, bien sûr, on va donner les zakats, etc., mais pour nous, le plus important, c'est la rigueur. Et toute la Torah va tourner autour de la rigueur. Ouais. Tout. Tout tournera autour de la rigueur. Il y en a d'autres qui vont dire le plus important pour nous, c'est l'équilibre. L'équilibre intellectuel, l'équilibre psychologique. D'autres qui vont dire le plus important pour nous, c'est la bonté. Cherchez dans tout la bonté. La bonté envers Dieu, la bonté envers les hommes, la bonté envers soi-même, etc. T'as certains qui vont te dire, la composante la plus importante, c'est de gagner son Yetzara. Ils te voient le Yetzara partout. Ils te lèvent le matin, Yetzara, Lachonara, Yetzara, Lachonara, Yetzara. Des gens comme ça. C'est une façon de voir les choses. D'accord? T'as des gens, ils vont te dire, la composante la plus importante dans le judaïsme, c'est l'humilité. D'accord? Etc, etc. Et chez chacun, il va trouver son point. Sept. Pas une de plus, pas une de moins. Pourquoi sept bergers? Parce que chacun des sept bergers correspond à une des caractéristiques. Maintenant. Dans les sept branches de la menorah, celui qui a la branche numéro 1, il n'est pas la branche numéro 2. Celui qui a la branche numéro 2, il n'est pas la branche numéro 3. Mais il y a une tige centrale. Qui, elle, regroupe tout le monde. Parce que vous savez comment a été construite la menorah. T'as une tige centrale. Et toutes les tiges sont raccordées, ça veut dire que tu as trois d'un côté, trois de l'autre, mais toutes les tiges sont reliées à la tige principale. C'est-à-dire qu'il y a une tige qui passe partout, que tout le monde passera par cela. C'est laquelle ? Moïse. Là, c'est Moïse. Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun juif, il n'y a aucun juif qui peut venir et qui peut dire « Moi, j'ai rien à voir avec Moïse, c'est pas possible. » Parce que Moïse regroupe tout le monde. Moïse, c'est la tige centrale.
Abraham aussi, alors.
Tu as raison. Abraham, alors attention. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont une autre appellation que Moïse n'a pas. Mm-hmm. Ils ont l'appellation de patriarche. Ouais. Intéressant. Mm-hmm. Ça veut dire, ils ont aussi l'appellation berger. Ça, tout le monde a, parce qu'un berger, c'est quelqu'un qui donne. Donc, il me donne quelque chose. Mais ils ont une appellation supplémentaire qui sont des patriarches. Patriarche, ça veut dire qu'effectivement, chacun de nous a un petit peu d'Abraham, un petit peu d'Israël, un petit peu de Jacob. Donc là, ça fait une mise de plus. Vous rentrez chez vous à la maison ce soir, vous direz à votre femme, je suis Moïse, Abraham, Israël, Jacob. Là, elle fait trois fois le cas. Alors.
C'est pour ça qu'on fait la fila tous les jours.
C'est les hôpitaux qu'elle t'appelle.
Bah oui. Mais attendez, on lit tous les jours, non?
Ah oui.
Faites l'Amida. L'autre Dieu est le Dieu de nos patriarches, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. C'est ton père? C'est ton père, Abraham?
Oui.
Oui, c'est mon patriarche?
Bah oui.
Pourquoi Moïse, pas mon patriarche?
Lien.
Et pourquoi il n'y en a que 4 matriarches, pourquoi il n'y en a pas 5 que ça te dérange d'avoir une de plus? Parce que c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a 3 patriarches, on pourra faire peut-être un autre cours pour expliquer les chiffres, pourquoi 3, pourquoi 4, pourquoi 7, chaque chiffre a son importance. D'accord? Donc nous avons, ça dans la Kabbalah, on explique beaucoup sur ça. Nous avons 3 patriarches, nous avons 4 patriarches, et en ce qui nous concerne, nous avons 7 bergers. Et dans ces 7 bergers, on se sent plus ou moins rattaché à un, donc ce qui correspond aux 7 branches de la menorah. On peut se sentir plus ou moins rattaché à une des branches, mais il y a une branche qui passe partout, c'est la branche de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu dans le Zohar est appelé Raya Me'emna, le berger fidèle. Il y a une section entière du Zohar qui est appelée Raya Me'emna, le berger fidèle. Et cette section entière est dédiée pour expliquer, bon, essayer, enfin le Zohar explique, après c'est nous qui devons essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu. Toute cette section s'appelle Raya Me'emna. Littéralement, ça nous donne berger fidèle. D'accord? Évidemment, la série des 7 était aussi berger dans le sens, au sens littéral. Mais ce n'est pas le sens littéral qui nous intéresse. Vous avez remarqué ça, que tous les grands chez nous étaient tous bergers? Je n'ai jamais posé la question pourquoi ils étaient bergers. Abraham était berger, Yitzhak était berger. Non mais sérieusement. Ah non, pas du tout. Ah non. Ça c'est faux. Non, c'est faux.
Non, c'est faux.
Mais non. Écoute, combien de bergers il faut sur dans un ratio de 100 personnes qui est dans une ville de 100 personnes, combien de bergers il faut?
Pas mal.
Ah bon? Combien il en faut?
Ça dépend.
Je parle des bergers pour des moutons, hein. C'est pas des bergers allemands. Alors.
Non mais je veux dire à l'époque, pas mal.
Combien de bergers, combien de bergers il faut pour 50 moutons?
Non,
un seul. Un berger, il te gère 500 moutons.
500 moutons, c'est ça.
Il n'y a pas de problème. Donc, et avec ça, nos patriarches et nos bergers, d'accord, donc nos maîtres, ils étaient bergers. Ah, berger, c'est un métier qui est un peu... Bon, j'ai rien contre les bergers, mais... D'accord. Hein?
C'est un bridou.
D'accord. Le gars qui est bon, il sait pas bosser. Bon, on va berger. D'accord. Excusez-moi du terme. C'est comme... comme il y a des techniciens de surface. Ouais, bon, il est berger.
Si c'est pas regarder l'écran.
D'accord.
C'est top berger, tu rigoles.
Alors, pourquoi les patriarches étaient bergers?
Pendant qu'ils broutent, tu peux...
Pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, parce que berger, c'est un métier... C'est un des rares métiers dans lequel ta tête n'est pas occupée. Parce que lorsque je suis dans un métier, j'ai pas le droit d'étudier la Torah en même temps avec mon esprit. Parce que je vole mon patron si je le fais. Mon patron, il me paye pour que j'utilise mon cerveau pour le servir, pour travailler. Si je suis là maintenant en train de travailler en même temps, je pose volontairement au cours, d'accord? Ou bien je suis en train d'écouter un cours, je vole mon patron. Ça s'appelle du vol. Mais, sauf si c'est un métier qui ne nécessite pas de réflexion. Comme berger. Ça nécessite très très peu de réflexion. C'est la première raison pour laquelle les patriarches ont cherché un métier comme ça qui leur permet de ne pas être dans la société. Il faut le dire clairement. Alors, est-ce que c'est recommandable aujourd'hui ou pas? C'est une autre question, mais en tout cas, c'est leur choix. De ne pas être dans la société et de pouvoir étudier la Torah tranquillement tout en travaillant. Ok. Mais une deuxième raison. C'est que, en étant berger, c'était une façon pour Dieu, en les poussant à être berger, c'était une façon pour Dieu à tester leur fidélité par rapport à leur troupeau. Ça veut dire jusqu'à combien il va s'attacher à son troupeau. Est-ce qu'il va les gérer comme des assiettes, d'accord? Bon, tu as une assiette. Mais moi, j'ai 50 assiettes, je les prends. À un moment, il y en a une qui s'est un peu cassée, un peu tombée, etc. Bah,
comme des moutons,
je m'attache pas. Je m'attache pas. Alors, c'est là qu'on va tester. C'est quoi le vrai berger?
David.
Le vrai berger, c'est une personne qui non seulement va diriger les moutons, mais il va sentir ces moutons. Ça veut dire, il va sentir ce qui les dérange. Il y a plusieurs choses sur ça, dans le Midrash. Sur Moshe Rabbeinu, sur le roi David, etc. On dit qu'ils sentaient leurs moutons. À un moment, par exemple, on te dit que Moshe Rabbeinu, il a senti qu'il y avait un mouton qui allait pas bien. Comment tu sens qu'un mouton allait pas bien? Je suis pas berger, mais comment tu sens qu'un mouton allait pas bien? Il faut beaucoup d'attention pour ça. Tu sens qu'il est pas bien. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas bien, je suis mal luné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te fait? Ça veut dire que c'est un métier dans lequel on s'attache à ça. Et à chaque fois, tous les bergers qu'il y a eu, Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans une situation de test. Dans lesquels, par exemple, il y avait un mouton qui sauvait, ou un mouton qui était pas bien, etc. Et il testait pour voir comment il va réagir. Et Baruch Hashem, ils ont tous passé le test. C'est quoi passer le test? Par exemple, Moshe Rabbeinu, comment il a passé le test? Il y a un mouton qui s'est enfui. Moshe Rabbeinu, il a couru derrière, en mettant en sécurité les autres, évidemment. Il a couru derrière ce mouton pour aller le récupérer. Maintenant, il aurait pu dire, bon, j'en ai 500, hein, des plus de moi, je veux dire, il s'est sauvé, désolé, j'ai pas vu, etc. J'ai pas vu. Bah, et personne te voit, tu racontes ce que tu veux, hein, tu peux raconter ce que tu veux au patron.
Bon, d'accord?
Oui, ah ben, il prend... seulement Moshe Rabbeinu, il s'est dit comme ça, c'est exactement ce que t'écris. Oui. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, il va aller tout seul. Même si lui, le mouton, il compte revenir, mais il sait pas les dangers qu'il attend. Donc moi, je vais aller pour le protéger parce qu'il sait pas ce qu'il attend. Donc il est parti le chercher. Il est parti le chercher et on dit que il s'est mis à courir derrière le mouton. Maintenant, je vous en prie, à quelle vitesse ça court un mouton?
C'est rapide quand même. Hein?
25-30.
Ça va bien, ça va bien.
Aucune idée.
Ah bon?
Aucune idée. Il y a beaucoup de
qui court plus vite entre l'être humain et le mouton?
Le mouton.
Hein?
Je chope un mouton.
Je pense que l'être humain.
J'ai attrapé un mouton. J'ai attrapé un mouton.
25-30.
Quoi?
L'être humain.
25-30 quoi?
Kilomètre 1.
C'est énorme.
C'est énorme. Nous,
c'est énorme. C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est
énorme. C'est énorme.
C'est
beaucoup moins. Ça veut dire quoi?
Bolt, c'était 36.
Hein?
À 10 secondes par 100 mètres, tu fais 36 km.
Ça veut dire quoi? Mais attendez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il aurait pu directement piquer un sprint et l'attraper, lui dire, bon, écoute, tu rentres en ton troupeau et arrête tes histoires. Non, Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. Il a senti qu'il n'était pas bien. Donc, il courait derrière lui, mais tout en étant soft. Tu vois, il dit, viens, reviens, reviens, etc. Et il a couru, et oui, vous savez où il est arrivé? Il est arrivé au Har Sinaï. En fait, c'est Dieu par le mouton qui l'a attiré vers le Har Sinaï. Et là, quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, celui qui sait se donner comme ça pour un troupeau, je veux que c'est lui qui s'occupe de mon troupeau. Et c'est le Ham Israël, on est comparé à un troupeau. Quelle vitesse?
Vitesse de pointe, tu peux aller 24 km/h.
Pas mal.
Ah, il faut courir derrière. Je peux te dire, c'est pas facile.
Non,
mais
ça va vite. Attends, déjà, c'est 24 là, tu vas voir. Tu vas être souffert en 20 secondes.
Tu vois comment on court, Michel?
La moyenne de 10, 11 pour être normal. 10, 11, normal. Mais un truc qui va vite, c'est 17.
Sur 100 mètres.
Ah, après 100 mètres,
oui, mais attends, mais le mouton, il court combien de.
Un peu moins.
Mais il court combien de mètres?
Il zigzague, on va dire.
Il s'essouffle à combien?
Ah, mais c'est ouf.
Ah bah oui. En tout cas, Moshe Rabbeinu, c'est ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, il aurait pu l'attraper sans problème.
Bah oui. Mais il était mollo.
Non, parce qu'il est prévu qu'il aille voir.
Ah bien sûr, il était doucement.
Tout ça, ouais.
Mais c'est ça un berger. Et c'est pour ça que parmi tous les bergers, le berger principal, c'est qui? Notre berger principal, c'est qui? Celui qui a eu l'appellation le berger fidèle par excellence, il y en a un seul, c'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, au fond de nous, on a tous un petit peu de Avraham, un petit peu d'Itsrak, un petit peu de Yaakov, un petit peu de David, un petit peu de Yosef, etc. On a tous un petit peu de ça. Mais ce sont des caractéristiques qui vont peut-être ressortir ou pas ressortir, ou oui ou non. Mais il y a une caractéristique que tout le monde a. C'est quoi cette caractéristique? C'est la caractéristique Moshe Rabbeinu. Donc il faut qu'on développe un petit peu pour expliquer c'est quoi cette caractéristique, concrètement comment elle s'exprime. Ok. Donc dans les mots. Shelachen Nikraim Beshem Roim. Ou Moshe Rabbeinu à la Vachalom, ou Klalout Kulam. Moshe Rabbeinu et Klalout Kulam, ça veut dire, est celui qui regroupe et qui englobe les autres bergers, exactement comme la tige centrale de la menorah. Très belle image, d'accord? Il les regroupe tous. Venikra Rayam Emna. Et il est appelé le berger fidèle. Maintenant, attention, là, il y a un petit jeu de mots. Roé, en hébreu, ça veut dire, monsieur Yazdi,
berger.
Très bien. Mais roé, en hébreu, ça veut dire aussi nourrir, faire paix, donner quelque chose à quelqu'un. Mais emna, en hébreu, ça veut dire fidèle. C'est l'araméen. Mais emna en araméen, ça veut dire aussi la emuna. Et là, attention, si je traduis le verset différemment, enfin le terme différemment, au lieu de traduire raya me emna par berger fidèle, je vais traduire ça par celui qui nourrit me emna la emuna. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nourrit la emuna. Ok. Alors là, on va s'arrêter un petit peu. Ça, c'est le Zohar. Raya me emna, c'est le mot du Zohar. Raya me emna, ça veut dire nourrir la emuna. Bon. Donc là, on va s'arrêter un peu sur la question. Ça veut dire quoi nourrir la emuna? D'abord, c'est quoi la emuna et pourquoi elle a besoin d'être nourrie? C'est quoi la emuna? La foi. Alors, comment on nourrit la foi?
On en a mangé tous les jours.
Hein. Et pourquoi elle a besoin d'être nourrie?
Pour faire avancer les bonnes choses.
De deux choses l'une. Ou tu me dis que j'ai pas de foi, dans ce cas-là, tu l'as créée. Ou tu dis que j'en ai, tu n'as pas besoin de la nourrir. Vous comprenez? Comme si je dis par exemple, regardez. Par exemple, tu me dis que je vais prendre un verre de coca. D'accord? Ou bien je vais prendre une pizza. Je vais me nourrir. C'est-à-dire, il y a la pizza, il y a moi, et je vais me nourrir. Mais c'est-à-dire, moi j'existe déjà, et la pizza va me nourrir. Si tu dis qu'on va nourrir la emouna, ça veut dire qu'on parle ici d'un juif qui a déjà la emouna en lui, mais que cette emouna n'est pas nourrie. Alors, ça veut dire quoi une emouna non nourrie? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un juif qui croit, mais qui croit pas, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez ma question?
Il faut l'activer.
Ah non, ça se laisse pas nourrir dans ce cas-là. Il a l'emouna ou il n'a pas l'emouna?
Elle est acquise en lui déjà, mais c'est peut-être pas suffisant.
Pourquoi il faut la nourrir? Il l'a ou il l'a pas?
Parce que tu as besoin.
Alors écoutez comment c'est expliqué en chassidut.
C'est
expliqué en chassidut, on reprend en Gemara, toujours dans le traité Brachot, qui donne un exemple très connu. Le voleur. Vous vous rappelez le nom du voleur? Le voleur, lorsqu'il est à la porte de la boutique qui va braquer, ou à côté du trou par lequel il va s'infiltrer, juste avant de commettre son larcin, qu'est-ce qu'il dit?
Il va prier pour qui?
Il dit, Dieu aide-moi. Mais attends, mais là, il y a une question. Là, il y a une question. Est-ce qu'il y croit? Tu peux me dire, il dit machinalement. Il y croit ou il y croit pas? Alors, si, il y croit, comment ça se fait qu'il va voler?
Voilà.
Est-ce qu'il y croit en Dieu?
Je peux vous donner une explication, hein, parce qu'on
l'a vu, à mon avis. Je vais vous donner la réponse. Deux secondes. Si il y croit, est-ce qu'il croit ou il ne croit pas en Dieu?
Il y croit. Mais
c'est sûr qu'il y croit. Donc il croit en Dieu et il demande à Dieu de l'aider. Alors, deux secondes, mais ce même Dieu ne t'aide pas à voler. Alors si tu crois en lui, tu ne peux pas voler. Ouais. C'est quoi la réponse?
C'est pareil.
Ça, c'est un exemple d'une émouna qui n'est pas nourrie. Une émouna qui est restée superficielle. Ça veut dire qu'au fond de lui, il sait qu'il y a un Dieu. Donc il sait que depuis petit, il sait que quand il y a une galère, il faut appeler Dieu. Maintenant, lui, il est dans une galère. C'est quoi la galère? C'est je ne veux pas me faire choper. Ça, c'est la galère. Donc lui, il sait, consciemment ou inconsciemment, d'accord, il sait que maintenant, il faut demander de l'aide à Dieu. Maintenant, cette émouna n'est pas assez intériorisée au point qu'il prenne conscience qu'il est dans un paradoxe et qu'il ne peut pas demander à Dieu de l'aider, de voler. Alors c'est Dieu qui l'interdit de voler. Mais il n'est même pas conscient de ça. Ça veut dire qu'à la limite, tu lui poses des questions, tu lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu es dans un paradoxe et que tu te contredis, il se rend pas compte et ça le dérange pas.
Mais il demande.
Et Michael a raison. Tu as raison, ça veut dire qu'il y croit.
Mais à mon avis, moi je pense que quand tu dis « Mon Dieu, aide-moi à me faire prendre ».
Ah non.
Et j'ai besoin de la loi.
Non.
Et j'ai besoin de ta loi.
Non. J'ai besoin de ta loi. Joseph, vous n'êtes pas un bon voleur. Joseph, vous n'êtes pas un bon voleur.
David, qu'est-ce que tu as mis dans la zone?
Jacques, il peut penser.
Ce paradoxe pour le voleur, il est la cabane n'importe quoi.
Non, mais ce que tu expliques...
Oui, bien sûr.
C'est la frontière qu'il y a entre... Avec la Avera.
Bien sûr.
Parce que tu fais une Avera, finalement, qui est comme le voleur.
Oui.
T'es comme le voleur, finalement il y a reconnaissance implicite de Dieu.
Oui, bon, moi, si tu veux, le cas du voleur, c'est un peu une caricature.
Oui, mais quelque part, quand
tu as raison, on le fait tous, bien sûr.
On est voleurs tous les jours.
Ça veut dire, par exemple, une personne peut avoir une affaire qui n'est pas parfaitement cachère. Et il peut être dans sa prière le matin en train de demander à Dieu de l'aider à réussir son affaire.
Exactement.
En sachant, au fond de lui, que l'affaire n'est pas cachère. D'accord. Ou bien il peut se lever le matin pour aller travailler Shabbat, parce que malheureusement il travaille Shabbat, et il a une grosse affaire, il dit bon Dieu aide-moi. Non mais c'est vrai. Moi, bien sûr qu'il y croit. Seulement, il a une émouna qui n'est pas nourrie. Comme il a une émouna qui n'est pas nourrie, c'est pour ça que cette émouna est superficielle. Alors quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? Quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de nourrir cette émouna. Moshe Rabbeinu, il n'est pas là pour t'enseigner la Torah. Il va aussi t'enseigner la Torah, mais il n'est pas là pour ça. Moshe Rabbeinu est le chef de la génération, de chaque génération. D'accord? C'est-à-dire que le rabbi de chaque génération, les tzadikim de chaque génération, ils sont là pourquoi? Ils sont là exactement comme Moshe Rabbeinu, ils sont là pour nourrir l'émouna des gens. C'est ça leur fonction principale. C'est-à-dire que les gens ont une émouna déjà. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas nourrie. Et comme, quand elle n'est pas nourrie, ils n'arrivent pas à l'utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quel est le rôle du tzaddik? Quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de nourrir cette émouna. Très bien. Maintenant, si on revient à notre question. On te dit, Moshe Rabbeinu, il y a 3300 ans, il nous parle. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu te demandes? Tu te demandes seulement de le craindre. Gemara pose la question, il dit, mais est-ce que craindre Dieu, c'est facile? C'est très difficile. Qu'est-ce que répond la Gemara? Il dit, si tu as un Moshe Rabbeinu qui est là, qui te nourrit ta émouna, qui te permet d'intérioriser ta émouna, que la émouna, c'est pas un élément superficiel, qu'au fond de moi, je sais qu'il y a un Dieu. Que je sens, je ressens, c'est palpable, je sens qu'il y a un Dieu. Mais une fois que tu arrives à ce niveau-là, t'as plus aucun problème à craindre à Kadosh Baruch Hu, ni à l'aimer. C'est automatique. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu te répond. Moshe Rabbeinu te dit, toi, tu crois que c'est difficile. Parce que tu n'as pas éveillé le petit Moïse qui est en toi. Et on va expliquer comment faire pour le développer. Il y a un petit Moïse qui est en toi. Et ce petit Moïse, si t'arrives à le développer, ta émouna passe du stade superficiel au stade intériorisé. Et c'est autre chose. Parce que quand on intériorise quelque chose, ça te lâche pas. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple quelqu'un, un fumeur. Bon. On n'arrête pas de lui dire, ça fait un bout de temps, que fumer tue. C'est écrit clairement sur le paquet. D'accord? On lui met des dessins, des photos, je sais pas, de poumons, je sais pas quoi, de... Il paraît que maintenant, il y a même plus le paquet, je crois que c'est paquet unique, c'est ça, non? Bon. Bon, très bien. Donc ça veut dire que, il y a des messages qui avancent. Et certainement qu'il y a des spots publicitaires, à la radio, à la télévision, dans les journaux, d'accord? Qui disent clairement aux gens que fumer tue. Et certainement que ce fumeur, excusez-moi les fumeurs, d'accord? D'accord?
On peut pas vendre des emballages comme ça, fixes, en plastique? Ça suffit fortune avec ça.
Et certainement, d'accord? Certainement que ce monsieur, il a dû entendre que peut-être, d'accord, il y a une personne qu'il connaissait peut-être vaguement, qui est morte. Elle est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle n'a plus de poumons. Pourquoi elle n'a plus de poumons? Parce qu'elle est fumée. Et pourtant, ce monsieur, il entend ça, et ça ne l'empêche pas de continuer à fumer. D'accord? Ça veut dire qu'on a beau essayer de leur expliquer. Leur dire, avant, je dis fumeur, je pourrais dire autre chose. Je pourrais dire le sucre, je pourrais dire le diabète, je pourrais dire beaucoup d'autres choses. D'accord? C'est un exemple que je donne. Je prends l'exemple de la cigarette, parce que la cigarette, on voit qu'il y a des campagnes très puissantes qui sont faites, qui vont peut-être aider ceux qui voudraient commencer à ne pas commencer. Ça, il paraît que ça a aidé. Mais ça n'a jamais aidé ceux qui fument déjà pour arrêter de fumer.
C'est une addiction, c'est difficile.
Oui, mais attends, je comprends pas. Imagine-toi qu'on te dit maintenant que ce que tu...
Un type qui se drogue, parle de la cigarette, mais parle de quelqu'un qui se drogue.
Oui.
À la drogue dure. Tu peux lui dire tout ce que tu veux.
D'accord. Mais imagine-toi qu'on te dit maintenant c'est du poison. Tu l'aurais pris? Tu l'aurais pas pris?
Avant de la prendre la première fois.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie du fumeur? Dans la psychologie du fumeur, ce qui se passe à ce moment-là, d'accord, c'est qu'il se dit, oui, c'est vrai qu'ils ont dit. Mais bon, regarde, il y a lui, il a vécu 100 ans, il est fumé. Et regarde, je vais bien. Donc, quelque part, il se rassure. Il se rassure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience. L'information est restée superficielle, elle plane. Maintenant, c'est juste ce qui va peut-être arriver un jour. C'est que peut-être un jour, il aura quelqu'un de très proche, qu'il connaissait très très bien, très très bon ami, qui va l'appeler un jour et qui va dire, écoute, tu sais, bac,
j'ai ça.
Ce monsieur, il va partir. Et là, ça va lui faire un choc. C'est vrai. Et quand il aura ce choc, peut-être, je dis bien peut-être que alors il aura une prise de conscience qui va s'arrêter. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? On va lui poser la question à ce monsieur qui a arrêté de fumer, on va lui dire, qu'est-ce que tu as pris de nouveau? Quoi? Parce que t'as vu un ami qui est mort avec la cigarette? Excusez-moi d'être cru. Mais tu savais pas que la cigarette tue? C'est écrit partout. C'est écrit sur ton paquet, tu le vois 50 fois par jour. C'est écrit partout. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que tu as appris?
Il va dire 50 fois par jour, il finit pas.
Il va dire j'ai rien appris de nouveau. Tu as raison, j'ai rien appris de nouveau. Mais j'ai réalisé quelque chose que je connaissais, mais que je réalisais pas jusqu'à maintenant. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est de t'aider à réaliser ce que tu connais, ou que tu n'as pas encore réalisé. Il y a plein de choses dans la vie qu'on connaît, mais qu'on ne réalise pas. Et c'est pour ça que ce fumeur, il peut être en même temps en train de lire un article dans lequel on parle des méfaits de la cigarette, et en même temps avoir une cigarette dans la bouche. Ouais. Ça ne le dérange pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il peut être en train de voir un film dans lequel on raconte une histoire de quelqu'un qui est mort parce qu'il fumait, ou bien lire un article, mais ça ne le dérange pas, il fume en même temps.
Mais qu'est-ce qui se passe, c'est
une information qui reste superficielle et qui reste détachée. Mais c'est plein comme ça, regardez. Par exemple, c'est écrit dans les livres, t'as pas le droit de faire telle avéra. C'est écrit, si tu fais les mitzvot Torah, si tu fais l'avérot Torah, ça c'est écrit. Comment ça se fait qu'on fait encore de l'avérot? Parce que quelque part, on se détache. Je dis, oui, c'est vrai qu'il y a un Dieu, etc. Je crois qu'il y a un Dieu, mais... Je me détache. Ça veut dire que je laisse ça dans une zone de mon cerveau. Je dis, bon, toi tu restes tranquille là-bas et je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, je fume.
Tant que je suis pas pris, c'est bon.
D'accord? Alors la cigarette, c'est un exemple qui est gentil, mais il y a des exemples beaucoup plus graves. Des choses où on peut s'arrêter. Tu as raison, Michel, que même des fois, s'arrêter la cigarette, c'est des fois dangereux de s'arrêter d'un coup. C'est une autre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses comme ça dans la vie que tu peux savoir, mais que tu ne réalises pas. Et ça, vous savez, par exemple, ça on peut avoir aussi, par exemple, dans la relation, dans le couple, ou dans les affaires, etc., que des fois, ça va mal. Et tu as plein d'indicateurs qui te disent « ça va mal, il y a un problème ». Mais tu ne veux pas écouter. Ça veut dire que tu as une information qui rentre, mais que tu ne veux pas réaliser. C'est vrai. Tu te refuses de réaliser. Et un beau jour, il y a un déclic. Tu dis « mais mince, hop, ça va mal ». Et « ah, bravo, Rabat, chez Riano, tu as compris que ça va mal ». Ça fait 2 ans que je le dis. Oui, mais tu me l'as dit, mais je n'ai pas réalisé.
Tant que tu n'as pas pris le
sens. Alors c'est très compliqué à déterminer qu'est-ce qui permet à une personne de réaliser. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut que ce soit un ami très proche, il faut que ce soit... Qu'est-ce qui fait que tu as réalisé? Des fois, il peut y avoir plusieurs situations devant lesquelles on reste insensible, et à un moment, il y a un déclic qui se passe avec quelque chose. Très difficile à déterminer. Très difficile. Ben, c'est exactement la même chose dans la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On entend en bruit de fond des cours et des messages, donc on entend beaucoup de choses. Est-ce que notre comportement change pour autant? Pas forcément. C'est-à-dire que parfois, on a un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on étudie. Et c'est un problème. Je dis, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Pourtant, c'est une information que j'ai ingérée, que j'ai compris. Donc, comment ça se fait que j'arrive pas à changer? Parce que, non, très simple. Parce que tu n'as pas pris conscience. Et ça, je le vois. Quand tu vois des gens, par exemple, qui ont fraîchement fait teshuva, tu les vois comment ils sont avides et comment ils prennent au sérieux tout ce que tu dis. C'est-à-dire, par exemple, si je lui dis, tu sais, il y a un tzaddik qui raconte que c'est bien, c'est une tzigoula de se lever à 5h du matin, le lendemain matin, le gars de 5h du matin, il est debout. C'est-à-dire, c'est pas, peut-être, j'ai entendu, ouais, bon, il a dit.
Il est apte à accepter.
Ouais, bon, il a dit. Non, c'est du sérieux.
Son cerveau, il est prêt.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il te prend au sérieux. Il te prend au sérieux.
Il achète.
Eh ben, Rabotai, ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu, du grand Moshe Rabbeinu, du tzaddik de la génération. Mais c'est aussi le rôle d'un petit niveau très sympathique, une petite bombe atomique qui se cache en nous, qui s'appelle Moïse.
Ça suffit, de bombe atomique.
D'accord? Et ce petit Moïse qui est en nous, son rôle principal, c'est quoi? C'est comment je peux faire prendre conscience à Mendy Assouline ce qu'il étudie. C'est son rôle, il est là pour ça. Et il est présent chez tout le monde.
On
va développer. Mais déjà, c'est important de savoir qu'on l'a.
On peut développer.
Ah, c'est important.
Achète un
mouton.
Combien de temps il passe, les psychologues, quand il va voir son psy?
Des années.
Pour essayer de faire réaliser à quelqu'un quelque chose.
L'expression, dessine-moi.
On doit revenir à son passé, on doit revenir à quand il est dans le ventre de sa mère. Pour essayer peut-être de lui faire réaliser qu'il y a un problème.
Tu peux les compter.
Il n'arrive pas à réaliser.
Comment?
Pour
dormir.
Raconte-moi les
moutons. Oui, bon. Il crée l'indépendance.
Partout, heureusement que ça existe.
C'est difficile de faire
combien d'enfants avec
ce que tu dis là? C'est très difficile. C'est pas évident. Faire le lien avec le petit Moïse qu'on a en...
Très difficile.
Impossible.
Mais il est là.
Pas enfin, c'est possible, mais c'est très dur.
C'est important de savoir qu'il existe et qu'il est là. Et c'est exactement ce que répond Moshe Rabbeinu.
La boîte sauvetage,
en fait. Moshe Rabbeinu, il dit, toi, tu crois que croire en Dieu, et surtout craindre Dieu, c'est difficile. Pourquoi? Parce que toi, t'as une relation superficielle avec les choses. Je dis toi, je dis moi, en réalité. Donc, comme t'es une relation superficielle, tu dis, oui, bon, c'est vrai, j'ai lu ce qui est écrit par rapport à Dieu. Mais j'arrive pas à sentir que j'ai peur de Dieu. J'arrive pas à intérioriser. Quand il y a un loup qui arrive devant moi, j'ai peur, là. Non, qu'on me dit, tu comprends, il y a un Dieu qui est là, qui est en haut, qui peut donner comme ci, donner comme ça. Est-ce que j'ai peur de ça comme j'ai peur du loup qui est devant moi avec la bouche grande ouverte, qui n'a pas mangé, ça fait un mois? Non. Non, j'ai pas peur, pourtant. Pourquoi? Pourtant, le loup, sa bouche, elle est là, elle est pas, il t'a pas encore bouffé. Dieu, il est partout. Donc Dieu, c'est pire que le loup.
Non, si
mais pourquoi j'ai pas peur? Parce que j'ai pas intériorisé. Je réalise pas.
Mais quelque part, cette dimension, elle arrive de Moshe, qu'elle est innée.
Oui.
Finalement, elle devrait être au même degré chez chacun.
Oui, Attention. Il va expliquer que c'est chacun en fonction de ses aptitudes. Mais ce Moshe a toujours le même rôle.
Oui.
Quel est le rôle? Permettre à une personne d'intérioriser quelque chose. Ça, on l'a vu, je vous donne un exemple avec le rabbi. Mais en vérité, on a tous au fond de nous un petit Moshe. Mais je vous donne un exemple avec le rabbi.
D'accord.
On a vu clairement qu'il y avait toutes sortes de gens qui venaient le voir. Lorsque c'était une personne qui était plutôt intellectuelle, le rabbi l'a attrapé par le côté intellectuel. Oui, ça veut dire, il le bloquait, tu comprends, par le côté intellectuel pour lui montrer qu'il y a un problème et qu'il faut qu'il revienne. Pour que la personne réalise. Quand c'est une personne qui était plus sentimentale, eh ben, il le prenait par les sentiments. Etc., etc. Quand c'est une personne qui est simple, il lui donnait des mots simples. Pourquoi? Parce que, un Moshe Rabbeinu, il a une fonction. C'est quoi? Permettre à celui qui est en face de lui de réaliser ce qu'on lui raconte. Il dit, je suis pas là pour t'apprendre quelque chose de nouveau. Ce que tu vas l'apprendre chez ton rabbin de quartier. Je suis pas là pour te apprendre quelque chose de nouveau. Je suis là pour t'aider à réaliser ce que tu connais déjà. C'est pour ça que des fois, par exemple, on amène des gens chez le rabbi, d'accord? Et tu vois des gens, ça fait des années que tu leur dis des choses, etc. Mais tu sens que ça rentre pas. Et à un moment, ils vont, une fois chez le rabbi, tu dis, maintenant je comprends. Qu'est-ce qu'il a compris? Comment c'est possible maintenant il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris?
On les voit dans les vidéos.
C'est-à-dire quoi il a compris? Parce que, c'est ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que avant, il connaissait. Maintenant, il réalise. L'Admour HaZaken, je sais pas si l'Admour HaZaken ou Rabbi Zusha, bon, en tout cas un des deux, l'Admour HaZaken, lorsque l'Admour HaZaken était, c'est l'Admour HaZaken ou Magid Mezerich, bon, en tout cas, c'est un des grands maîtres de la Chassidoute, avant qu'il devienne maître de la Chassidoute. Il était donc jeune marié, et il a demandé l'autorisation à son épouse pour aller étudier chez un grand maître de Razou qui était ou le Baal Shem Tov ou le Magid Mezerich. Bon, il a demandé l'autorisation. C'est vrai, à l'époque, un voyage qui se préparait longtemps à l'avance et il fallait aller pour plusieurs mois parce que juste le voyage, il prenait déjà 2-3 semaines. Donc, tu ne vas pas aller pour rester 2 jours. Donc, il a demandé, en général, quand on demandait l'autorisation, on demandait l'autorisation pour aller pour 4 mois, 5 mois, 6 mois. Des choses, c'est des longs séjours qui se faisaient comme ça. Donc, il a demandé l'autorisation. Il a demandé l'autorisation à son épouse et à ses beaux-parents aussi. Parce que qui c'est qui allait s'occuper de son épouse quand ce n'est pas là? C'est les beaux-parents, c'est eux qui vont subvenir aux besoins. Très bien. Donc, les deux étaient d'accord, ils ont dit, si c'est pour renforcer la Torah, vas-y. Très bien. Donc, il revient 6 mois plus tard pour les fêtes de Pessah. Son beau-père lui pose la question, lui dit, alors, qu'est-ce que tu as appris? Il lui dit, j'ai appris que Dieu existe. Alors là, il a appelé la servante, enfin la servante, oui, il lui dit, dis-moi, est-ce que Dieu existe? Il dit, mais bien sûr, j'y pense tous les jours. Il dit, regarde. Elle n'a fait aucune étude, elle me sort ça, toi t'es parti 6 mois, tu nous as laissé. Pour ça? Elle dit non. Elle dit, moi je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle le dit, bon, elle le dit. Moi aussi je pouvais le dire avant. Dieu existe pas, Dieu existe. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu l'intériorises? Il dit, j'ai passé 6 mois chez mon maître de la Chassidoute pour essayer d'intérioriser qu'est-ce que ça veut dire que Dieu existe. 6 mois. Pour intérioriser que Dieu existe. Pas seulement le savoir, pas seulement le croire, mais l'intérioriser. Ça c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Et ce Moshe Rabbeinu, nous avons tous un petit Moshe Rabbeinu. Et dès qu'on arrive à le mettre en éveil, c'est du gâteau, tout le reste c'est du gâteau. Il suffit juste de prendre les choses au sérieux.
Mais lui, il avait besoin de quelqu'un avec qui parler.
Oui.
Tu te mets dans la glace.
On a les tzadikis, mais on a aussi en nous un petit Moshe Rabbeinu.
Oui,
un petit Moshe qui est là. On va expliquer. Michael, il pose la question. Il dit, mais comment on fait pour le.
Il faut que quelqu'un te bouge derrière.
Comment on l'allume? Il est où son bureau? Il est où son bureau à ce Moïse? Donne-moi la clé, donne-moi l'interrupteur.
Il faut quelqu'un qui.
Hein? Hein? Bah oui, donne-moi la clé.
Il est dans le livre qu'on est en train d'étudier, il est pas loin, il est avant toi.
Il a mis au copio.
Faut juste le relire.
D'ailleurs, vous savez, ça c'est la chassidout. Chassidout Rabban. Chochma, Bina, Dat. C'est quoi Dat? Chochma, c'est l'intelligence, c'est le brio. Bina, c'est la réflexion. Bon, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir un brio, d'avoir des idées, et le fait d'être capable de réfléchir. Après, il y a Dat. C'est quoi Dat? C'est la prise de conscience. C'est le plus difficile. Parce que comprendre des choses, on peut comprendre des choses. Mais réussir à les comprendre et à m'y attacher au point que je me sens concerné personnellement, ça, c'est un travail qui est difficile, qui prend du temps. Combien de fois ça, t'entends quelque chose, t'entends un message, bon, dans une oreille, sans une autre. Bon, très bien. Parce que ça te touche, personnellement. On te dit, par exemple, qu'il y a des scientifiques qui sont très inquiets, comment ira le monde en 2050.
Bon. Déjà, ils sont prêts à appuyer sur le dos.
Eux, ils sont inquiets. Mais attendez, eux, ils sont très inquiets. Tu les entends parler sur France Info, ils sont là, ils te disent, mais vous comprenez, il y a un problème, quel 2050? Ils disent, maintenant, l'échéance a été, c'est pas 2050, c'est pour 2040 qu'on est inquiet. 2040, bon, 2040. Moi, j'entends ça, est-ce que je suis inquiet? Non, pourquoi? Parce que je réalise pas. Pourquoi lui, il est inquiet? Parce que lui, il réalise, c'est son métier, il fait ça toute la journée. Et quand c'est les données qu'il analyse, et qu'il vit avec ces données toute la journée, il s'endort avec, il se lève avec, il dit, mince, c'est un problème. Mais moi, je vis pas comme lui. Moi, je suis pas dans ces données, donc je suis pas inquiet comme lui. Pourtant, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Il dit, mais je vous montre, regardez, il y a des schémas que... Je remets pas en question ces schémas, il y a des schémas...
Il y a des chiffres et tout.
Bon, j'écoute, moi, je suis pas dans tes chiffres, moi. Pourquoi je suis pas inquiet? Je suis pas inquiet parce que je n'ai pas réalisé. Je n'ai pas eu le da'at. Je n'ai pas pris conscience. Le rôle de Moshe Rabbeinu, et là, on revient, Raya Me'emna. Comment on traduit Raya Me'emna, monsieur Yazid? C'est deux traductions. Première traduction de Raya Memna, c'est Roé Ne'eman. C'est quoi Roé Ne'eman? Berger fidèle. Deuxième traduction, celle qui nous intéresse, c'est quoi?
Nourrir la Emouna.
Nourrir la Emouna. Moshe Rabbeinu ne crée pas la Emouna. Parce que, rappelez-vous, ce qu'on a expliqué dans le chapitre 18, un juif, deux séries, il a déjà la Emouna. Il n'y avait pas besoin de créer la Emouna. Nous avons la Emouna. Seulement, le problème, c'est que la Emouna, des fois, n'est pas nourrie. Alors, je vais vous donner une caricature. C'est comme on a les fêtes qui arrivent maintenant. On a le fameux juif de Kippour, ou le juif de Rosh Hashanah qui va venir. Il va venir à Kippour. Il fera une prière en pleurant. Il va être à fond dans sa prière. Il va être dans la prière. Il a l'Emouna ou il n'a pas l'Emouna? Et pourtant, pour le revoir, je vais attendre le prochain Kippour. Pourquoi?
Il n'a pas le temps.
Une journée suffit.
Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il a été touché par le message, pourquoi il ne revient pas?
Bah oui.
Moi, il y a un problème. Et bien, tu as un restaurant, un super restaurant, tu as réussi à attraper un client, il vient une fois, il revient une autre fois l'année d'après. Il y a un problème. Normalement, il faut qu'il revienne. Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il ne revient pas? Parce que sa Emouna n'est pas nourrie. Donc, il comprend des choses et il ressent des choses, mais il ne les réalise pas. Donc, maintenant, il est arrivé à un moment dans lequel Saléchama a appelé le divin à la synagogue. Il est venu à la synagogue. Parce que c'est normal, c'est Kippour. Mais le lendemain, dès qu'il revient dans la vie active, et que les choses qu'il réalise ne sont pas forcément les choses de la Torah. Donc du coup, il revient à ce qu'il réalise. Il dit, bon, bah, la Torah, ils sont bien gentils, mais moi, ce que je réalise, c'est mon travail, c'est ma carrière, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est etc. Parce que c'est ça ce qu'il réalise. Et c'est le plus difficile, ça. Le plus difficile, c'est d'essayer de réaliser ce qu'on est en train de faire. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de travail. Pour trouver ce petit Moshe qui est en nous. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de... Il faut essayer, re-essayer, re-essayer. Exactement comme l'exemple de la cigarette. À quel moment il va prendre conscience? On sait pas. Peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans, peut-être demain, peut-être ce soir, je ne sais pas.
Des fois c'est trop tard. Hein?
Des fois c'est trop tard, des fois c'est au bon moment, on ne sait pas.
Mendy, tu viens de dire que...
Oui, mais bon, des fois c'est bien tard.
À la Emouna, dès le départ. Il l'a, dès que la Brit Mila a été faite.
Avant encore.
Avant?
De série. Ça n'existe pas un juif qui n'appelle Emouna.
Donc avant la Brit Mila, il l'a.
Ça n'existe pas.
Quand
il a la Emouna. Un juif, il croit en Dieu. Il peut se convaincre qu'il ne croit pas en Dieu. On peut se convaincre de beaucoup de choses. S'auto-convaincre de dire que... on appelle ça de l'autosuggestion. Bon.
Ou du déni, tout
simplement. Je peux dire je suis athée. Il y en a, imagine une fois, je crois en athéisme. Attends, bravo. Pas mal, ça, tu vois. Je suis croyant athée. Ah, bon, à qui tu
crois? C'est rare, les juifs.
Hein?
Ils ont créé une nouvelle religion.
Les athées.
Oui,
c'est ça.
C'est exactement, c'est une nouvelle religion. C'est stylé, tu vois, c'est bon, ça passe bien.
C'est stylé, ça.
Non, bon. C'est juif athée, parce que juif, quelque part, c'est une connotation. Et il dit, je suis juif.
Bon, mais encore une fois, c'est la sémantique, c'est les mots.
Ça, mais juif athée, hein. Pareil, c'est contradictoire.
Hein, c'est complètement
c'est,
opposé.
C'est aberrant. Voilà, c'est aberrant.
Non, mais à ce moment-là, il est juif.
Vous savez, c'est comme, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut, quand ceux qui n'ont pas envie de dire Dieu directement, qui n'ont pas envie de dire Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler Dieu différemment. Par exemple, ils vont parler de mère nature.
La nature.
L'esprit. Mais c'est qui la nature? Un être suprême, exactement. C'est qui la nature? C'est qui? Exactement. C'est qui? Alors, tu veux pas dire Dieu? Dis pas Dieu, très bien. Dis pas Dieu, dis autre chose. Dis Tartampion. C'est la même chose. On parle de la même chose. On parle de la même chose. D'accord. C'est forcément à un moment ou à un autre, tu dois comprendre qu'il y a une force suprême. Seulement, encore une fois, le savoir, on peut le savoir. D'accord. Le croire, on le croit. Mais on le réalise pas. Et c'est un travail quotidien, constamment, d'essayer de réaliser.
De la prise de conscience.
Et d'ailleurs, vous savez, c'est la raison pour laquelle Admor HaZaken explique dans le, ça s'explique dans Higueret HaTshuva. Il dit, vous avez remarqué que, tous les jours, on fait trois fois la même Amida. Tous les jours. Tous les jours, le même message. Et surtout, n'en parlons pas, ceux qui font Minra suivi d'Arvit. Imagine-toi quelqu'un qui vient te dire quelque chose, et cinq minutes plus tard, il te répète la même chose. Il vient te voir, tu dis, bonjour Serge, voilà, j'aurais besoin de ça, qu'est-ce que t'en penses de ça, etc. Donc il te parle.
Il recommence.
Il revient cinq minutes après, et il recommence. Bonjour Serge, voilà, je vais te dire, etc. Il répète la même chose. Il revient le lendemain, la même chose, même message. Il revient demain après-midi, même chose.
Ça rentre dans la tête.
Tu dis, mais attends.
Il y a un problème.
Je comprends pas. Si ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas demain. Si ça n'a pas marché il y a 10 minutes, ça ne marchera pas tout à l'heure. Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Et l'Admor HaZaken explique dans Higueret HaTshuva. L'Admor HaZaken explique dans Higueret HaTshuva la chose suivante. Non, mais c'est très sérieux ce que je vous dis. L'Admor HaZaken dit la chose suivante. Il dit en vérité, pourquoi on répète tout le temps la même Amida? Parce qu'en vérité, on dit des mots que si on prenait conscience des mots qu'on disait, chaque mot nous aurait fait sauter. Chaque mot de l'Amida. On va commencer le premier. Baruch Ata Hashem. Tu es béni Hashem. Je suis en train de bénir Dieu. J'ai juste commencé là. Moi, je bénis Dieu. Moi, c'est moi qui bénis Dieu. Et attends, c'est pas le contraire. Non, non, c'est ce que je viens de dire. Baruch Ata Hashem. Éloquez-nous, notre Dieu. Ah, c'est mon Dieu. C'est quoi un Dieu? Juste chaque mot de l'Amida. C'est un exemple, l'Amida. Si on prenait conscience, on aurait explosé. Explosé. On aurait changé concrètement. Dans le fond, on le fait pas. Mais ce qu'on espère, c'est quoi? C'est qu'à force de répéter, chaque fois, il y aura un petit mot qui va te toucher. Tu vas dire, ah ouais, tiens, j'avais pas fait attention à ce mot, il est pas mal, ce mot. Ah ouais, tiens, l'idée est pas mal. Pac! Pris conscience. On sait pas ce qu'il va nous parler. Des fois, tu vas faire une Amida, il y a aucun mot qui t'a parlé. T'as rien qui t'a parlé.
C'est la Kavana.
D'accord? T'étais à côté. T'as pas parlé. Des fois, il y a un petit mot qui t'a parlé, qui t'a accroché. Après, bon, le reste est parti, mais ça, c'est accroché. On sait pas. Mais c'est pas grave. On préfère te demander, ça nous dérange pas de te demander de répéter le même message autant de fois qu'il faut jusqu'à qu'il rentre. Répète. Je crois que tu dis, ah, mais attends, finalement, peut-être tu as raison. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être pas un bon exemple. Mais puisqu'on a ici un professeur des écoles, Monsieur Bergel, vous savez, c'est comme, je sais pas s'ils font ça aujourd'hui encore à l'école, mais à l'école avant, quand on faisait une bêtise, ou des fois c'était des punitions collectives, il dit par exemple, il fallait écrire 50 fois ou 100 fois. Je ne manquerai plus de respect au professeur, une ligne en rouge, une ligne en bleu, une ligne en vert, etc. Bon,
d'accord. Tu devenais un âne. Tu répétais la même chose. Mais,
non, justement.
Non,
mais c'est ça l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que le gosse, quand il commence à écrire, il voit le côté galère. Qu'il y a un prof qui m'énerve. Et que si je pouvais me débarrasser de lui et de sa punition, je l'aurais fait. Mais quand il répète, il réécrit. À un moment, les mots vont lui rentrer dans la tête. Je ne manquerai plus de respect au professeur. Ah, bah oui. Il y a une notion qui s'appelle respect. Il y a une notion qui s'appelle professeur. Et je, c'est moi. On parle de moi, là. On parle pas de monsieur Intel. On parle de moi. Je, moi, ne manquerai plus de respect au professeur. Peut-être ça va rentrer, peut-être ça va pas rentrer. Et ben si c'est pas rentré, le professeur, il va lui redonner la même punition. Il va dire, mais non, le décret 50 fois, tu vas m'écrire 100 fois. Ouais. Je crois que ça rentre. Enfin, on prend le temps qu'il faut. Maintenant, aujourd'hui, apparemment, aujourd'hui, le monde a changé aujourd'hui.
Bon, il y a certaines écoles privées qui le font.
Qui le font encore.
Mais,
Pédagogiquement, ça marche pas.
Nous, c'était l'idéal. C'était 8 ans, tu bougeais 16 ans. Parce que les parents,
ils refusent.
Tu vas 32 ans.
C'est quoi, j'ai pas compris.
Les verbes.
Ah oui, oh là là.
Et on a fait des pages. Tu bouges 32, tu 64. Après, tu t'écrasais, quoi. Tu me dis,
ça marche. Comment ça se fait sur ces milliards d'individus?
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui font
confiance.
Ou alors, il est présent, il n'y a pas des exercices qui comptent.
Parce que déjà, il faut savoir que nous, on a...
C'est un travail sur soi-même.
Il faut comprendre quelque chose de très important. Que nous, on les dépasse de série. Parce qu'un goy, il n'a pas l'émouna en Dieu de série. Il peut travailler pour avoir l'émouna, pour croire en Dieu, mais il ne croit pas forcément en Dieu de naissance.
Même chez les juifs.
Non mais attendez, ça veut dire que nous, de naissance, on les dépasse de loin. Ça veut dire que c'est comme vous avez une course. Mais si dès le départ, un, il commence, il est déjà au kilomètre 500. Ben, il a déjà gagné. Maintenant, l'autre, il est là, il grimpe. Entre temps, le juif, il bouge pas, tu vois, il fait le malin. Et tout d'un coup, il décolle. Parce que, il est sans lui. Il a ça dans les gènes. C'est en lui. Il a la Emouna. Ça veut dire, seulement, ce qu'il faut, ça demande qu'une prise de conscience. Et ça, vous savez, des fois, je demande à des gens qui font des choses. Je dis, mais, enfin, on va tout de suite, on attend un petit peu. On dit, mais qu'est-ce qui t'a attrapé? Qu'est-ce qui t'a attrapé? Et à chaque fois, c'est des réponses vraiment inattendues. Il va dire, ce qui m'a attrapé, j'étais à un repas de Shabbat chez toi et j'ai vu ça. Petit détail, mais pour moi, c'est un détail bidon. Je ne lui dirai pas, mais c'est un détail bidon. Je dis, mais c'est rien, ça. C'est même pas le Dvar Torah que t'as dit, c'est même pas ça, un petit détail. Pac. À ce moment-là, il a eu une prise de conscience. Je veux être comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et il est venu à la synagogue, d'accord? Des fois, quelqu'un il me dit, tu sais, il y a un cours que tu as fait qui m'a changé la vie. Je dis, ah bon? Et il te sort un truc que tu te rappelles pas avoir dit. Ou tu te rappelles avoir dit peut-être des fois, mais c'était vraiment un détail, un petit détail du cours, qui n'était pas l'objet principal du cours. C'est-à-dire, quand tu prépares un cours, tu essaies de trouver, il y a un objet principal et des petits détails. Mais lui, des fois, ce détail, pac!
Il a capté.
Ça l'a capté, après c'est fini, c'est bon.
Il est bon.
Il est bon. Il est parti. Il est décollé. Pourquoi? C'est comme ça. Quand tu essaies de faire démarrer un moteur, t'essayes, là. Qu'est-ce qui va faire démarrer le moteur?
L'étincelle.
Tu sais pas quand va venir l'étincelle. Est-ce que c'est une science exacte que j'ai tiré comme ça, j'ai tiré, un pack, à un moment il y a l'étincelle, il est parti le moteur. Pourquoi? Non mais pourquoi? Ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que il y a un élément déclencheur qui arrive à un moment. Et dès qu'il arrive, il suffit d'une étincelle. Une étincelle, il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Ça veut dire que tu peux mettre beaucoup d'essence, de ce que tu veux. Mais à un moment, il y a une étincelle qui arrive, et dès qu'elle arrive, pff, ça décolle. Mais il faut qu'elle ait le bon moment, c'est tout. Ben c'est ça. Le petit Moshé qui est en nous, c'est celui qui essaie de nous amener cette petite étincelle. Pour essayer de nous permettre de prendre conscience, de prendre conscience de ce qu'on est, d'accord? De ce qu'on est et de ce qu'on est. Alors maintenant, ce qu'on va développer sur la chaîne dans le prochain cours, on va expliquer. Et là, on va bien développer ça, Bezrat Hashem, que, en général, surtout en Galoute, surtout en exil, la seule façon d'éveiller le petit Moshé qui est en nous, c'est en se faisant aider par une Neshama dans la génération, qui est appelée le Moïse de la génération. En d'autres termes, on parle d'un tzaddik, on parle d'un rabbi. Vous me suivez? Ça, c'est la question de Michael. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il dit, mais comment on fait pour réveiller ce Moshé? On comprend que c'est ça notre faiblesse, en vérité. Notre faiblesse, c'est qu'on ne prend pas conscience des problèmes. Ça ne nous dérange pas.
On a besoin d'une aide, tu veux dire.
Alors, attention, on a besoin d'une aide, c'est comme une dynamo.
Il nous faut un maître.
Ça veut dire qu'en vérité, moi, j'ai en moi ce petit moteur en moi, mais je n'arrive pas à le démarrer. Et lorsque Maneshama va aller chez un grand tzaddik, qu'est-ce qui va passer à ce moment-là? Lui, avec son gros moteur, il va enclencher mon moteur. Après, une fois qu'il est parti, mon moteur, c'est bon, je roule. Il faut juste l'enclencher.
Alors, qui c'est qu'on va voir?
Le rabbi, c'est quoi, descend?
Non, mais le rabbi. Bien, mais...
Bah vas-y,
mais
ils sont tous... quand tu veux.
Il est loin.
Hein?
C'est mon cher Andover.
Tu veux? Dans deux mois, tu veux?
Il est dans le 13e.
Avec moi?
Non, je pourrais pas. Il est dans le 13e. Dans le 13e, tu veux?
Qu'est-ce qu'il y a au mois de novembre?
Non,
quelqu'un qui soit en vie, qui répond.
Quelqu'un qui lui parle de Dieu. C'est quelle occasion, mon novembre?
Quoi? Et qui nous sèche l'orim? Tu comprends? Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Ça veut dire que, c'est, encore une fois, j'ai pas dit qu'on peut pas se débrouiller seul. On peut se débrouiller seul.
Non,
mais
il vaut mieux une aide.
Tu peux. Ça veut dire que si tu cherches, tu vas creuser, tu as en toi un petit Moshé Rabbeinu. Maintenant, la question est-ce que tu vas réussir à le démarrer?
Ou alors, c'est la bonne direction.
Vous savez, il y a des gens qui ont un moteur dans leur garage. Le moteur, il est là. L'essence, elle est là. Les pistons fonctionnent, tout fonctionne. Il n'arrive pas à démarrer. Et le garagiste, il vient en une seconde, il lui démarre. Venez. Il lui a amené une batterie de secours, pack, il est démarré. Et après, c'est fini, il est parti.
Oui, mais
il faut une impulsion de départ.
Le garagiste va faire démarrer le moteur.
Oui.
Mais lui, il ne saura toujours pas comment démarrer le moteur.
Oui, mais attendez. Oui, c'est vrai. Sauf que vous oubliez que nous, on a un diesel, un moteur d'avion. Une fois qu'il a enclenché, tant que tu l'arrêtes pas, il s'arrête pas.
Lui, il peut démarrer ton moteur tout seul, c'est ça l'idée.
Ça veut dire que le moteur qui est en nous, il faut l'enclencher. Et après, tu peux l'éteindre si tu veux. Tu peux l'éteindre, attention, tu peux l'éteindre. Mais si tu l'éteins pas, il continue.
De l'aide, on peut en avoir. Certains de l'aide.
C'est de rabiquer la lumière, c'est un temps.
C'est sympa, mais il faut de temps en temps le. Nourrir la Emouna. Voilà. Nourrir la Emouna. Bon, mais ça nécessite et mérite au moins un autre cours. Au moins un autre cours. Et donc, c'est le thème de la semaine prochaine,
mais attends. Mais pour te l'aider, il faut encore le vouloir aussi. Parce qu'il y a des gens.
Je pense que la vérité. Non, je vous dis honnêtement, on est tous de bonne volonté. Qui n'a pas envie d'être un type bien? Je veux être un type bien.
Il faut attendre le.
Mais j'arrive pas parce qu'en vérité, j'ai pas envie vraiment.
Mais ça fait que c'est d'être un type bien aussi.
Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 2-3 semaines. J'étais en train de faire un cours en stage à une élève qui rentre en première. Et elle me dit, monsieur, je suis là parce que j'ai de mauvais résultats parce que j'ai pas de volonté. Et je lui dis, mais c'est quoi la volonté pour toi? Bah, je sais pas. Je fais comment tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans une journée? Comment tu travailles quand tu rentres chez toi? Je fais ça, et puis après, je m'en balance. Et je lui dis, bah voilà, c'est pas compliqué. La volonté, tu vas la trouver en ayant une méthode. Tu fais les choses dans un ordre précis. Tu fais les choses avec clarté, précision, rigueur, etc. Tu vois, ça va venir. Et pendant 4 jours, je lui ai rebalancé le même discours. Tac, 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 tac. Et elle m'a dit, monsieur, j'ai tout compris, merci.
Voilà.
Elle m'a envoyé un petit texto. Elle m'a dit, pour ma rentrée maintenant, je sais comment faire.
Ouais. C'est l'organisation.
Ouais. Il faut créer la volonté.
Il faut la créer. Et elle ne savait pas. Et il y avait aucun prof qui lui avait expliqué ça. En plus, sa mère était prof d'anglais. Elle a impossible de...
Parce qu'il y a un déclic qui ne venait pas. Il y a un déclic qui ne venait pas.
Me dit, j'aurais dû vous avoir l'année dernière.
Ah, vous avez été la personne qui a été capable de déclencher.
Ouais, de cette